son des Antilles.
Le son des Antilles.
Radio Sud-Est. Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. En tout cas, je remercie Dominique et Carole qui nous accompagnent et qui sont toujours fidèles avec nous. Alors aujourd'hui, mon invité, il s'agit de Danielle Marceline, avocate honoraire, ancienne bâtonnière, présidente du GIP Titrement et Indivision en Martinique. Bonjour maître.
Bonjour, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent.
Alors ces derniers temps en Martinique, les mots succession, indivision, terrain occupé, cadastre, prescription acquisitive sont depuis quelques mois au cœur des conversations de l'ensemble des familles martiniquaises. Et ce sont des mots que connaît très bien notre invitée qui est présidente, comme je vous l'ai dit en début d'émission, du GIP Titrement et Indivision. Qu'est-ce que le GIP Titrement et Indivision, maître ?
Alors c'est un groupement d'utilité publique, hein. C'est GIP, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé par la CTM et par l'État. Et ce sont eux qui contribuent au financement, donc c'est un établissement public. Et il y a également des membres qui participent, même s'ils ne contribuent pas financièrement, mais ils sont membres du GIP, qui sont la Chambre des notaires, l'Ordre des géomètres et l'Association des maires. Et donc ce groupement a été créé parce que ça fait des années que l'on parle de la question de l'indivision. Il y a eu un certain nombre de lois qui sont sorties et il est apparu qu'il était nécessaire de créer ce groupement pour faciliter la sortie de l'indivision et le titrement.
En tout cas, c'est vrai qu'en Martinique, beaucoup de personnes sont concernées. On a d'ailleurs vu qu'il n'y a pas longtemps, vous aviez fait une rencontre et une réunion dans une commune, je crois que c'est au Lorrain, si je me trompe, où il y avait encore énormément de monde parce qu'il y a beaucoup de questions de la population à ce sujet. Et d'ailleurs, il y a dans certaines communes où 79% des biens sont en indivision, dans certaines communes du Nord, par exemple.
Notamment le Nord Atlantique. Hein. Quand on se rend compte... Alors, il y a une explication... Hein. Comme je le dis souvent, il ne s'agit pas de stigmatiser nos aînés et nos ancêtres parce qu'ils n'ont pas réglé des successions. Il ne faut quand même pas oublier que nous sommes les héritiers d'une histoire qui est une histoire qui n'est pas simple. Jusqu'en 1848, tout le monde n'avait pas la capacité d'acquérir. Même des personnes étaient les biens d'autres personnes. Donc lorsque l'abolition est apparue, où tout le monde a eu la capacité, la pleine capacité juridique, il a fallu se préoccuper de problèmes qui étaient des problèmes urgents. C'était la question de la survie alimentaire. Comment on passait d'un système à un autre, comment s'alimenter. Et puis la question de l'éducation, parce que pour les anciens esclavisés, la priorité, c'était l'éducation, parce qu'ils avaient bien compris que n'ayant pas de moyens financiers, c'était par là que leurs enfants allaient pouvoir sortir par le haut. Donc la question de la propriété n'a pas été la formalisation de la propriété n'a pas été la préoccupation première. Et donc, si les choses... Alors, les gens, ils se sont installés sur des terrains, ils ont, de façon orale, on leur a dit, vous êtes là, vous avez telle parcelle, et puis ils ont transmis à leurs enfants en disant, voilà, c'est là que nous sommes. Et ce n'est que des générations après que la famille s'est instabilisée, la situation de l'éducation s'est instabilisée, on a pu se préoccuper de la question de la terre et de la propriété. Comment formaliser la propriété ? Et à ce moment-là, eh ben, c'est devenu compliqué parce qu'il fallait trouver, mais il fallait retrouver les titres de propriété. Il y en a quelquefois, il n'y en a pas. Il fallait retrouver les héritiers parce que c'était sur 2-3 générations. Donc ça, c'est à l'heure actuelle, je vous assure, dans le nord Atlantique, c'est très, très compliqué d'établir la liste des héritiers par rapport à un terrain, d'autant que c'est très escarpé, c'est pas des terrains plats. Le sud, c'est beaucoup plus facile parce que l'occupation a été différente, parce que c'est plus plat, parce que c'est moins boisé, alors que pour le nord, c'est plus difficile.
On sait que le GIP est véritablement en fonction, sa création a été faite en février 2023. Vous l'avez rappelé, il y a une installation... Et en ce moment, mais si les gens veulent s'adresser par exemple au GIP, comment ils doivent faire ?
Alors c'est pas compliqué, alors je précise, c'est exact que la création du GIP a été publiée en février 2023, mais l'Assemblée Générale d'Installation a eu lieu en juin 2023, Et les subventions ont été versées fin octobre 2023. Donc la première embauche a eu lieu le 1er novembre 2024, c'est-à-dire 23, c'est-à-dire celle de la directrice. Et ensuite, on a embauché la juriste dans la foulée. Donc le GIP est opérationnel depuis janvier 2024. Il a fallu acheter le matériel, les ordinateurs, finaliser les embauches. Et donc, le GIP se trouve à l'immeuble Delgrès, au centre d'affaires Delgrès, qui se trouve à la Pointe des Sables, au bâtiment B et au deuxième étage. Donc ça, nous sommes là et on peut nous trouver. Donc les gens peuvent venir. Ensuite, on a un téléphone que je peux vous donner. Le téléphone qui est le 05 96 49 03 30. Et les gens peuvent téléphoner. Et ils peuvent exposer déjà, si c'est nécessaire, de leur fixer rendez-vous, ce qui sera de toute façon nécessaire. Mais avant de fixer rendez-vous, on leur dit déjà les pièces qu'il faut avoir. Et les gens, ils ont rendez-vous à ce moment-là, la juriste, soit avec celui qui est le chargé d'études foncières. Donc en fonction du cas, on fixe rendez-vous au GIP et le GIP commence à recevoir et commence à être un peu submergé par les appels.
Ça ne m'étonne pas, vu le nombre de dossiers, le nombre de personnes, on en parlait d'ailleurs au début d'émission, hein, qui est au quotidien. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui confondent occupation des lieux, preuve d'occupation des lieux en ayant n'importe quel document qui prouve qu'on occupe un terrain depuis un certain temps, qu'on paye une facture d'électricité, n'importe quoi, en pensant que ça fait qu'ils pensent que par rapport à ça, ils sont propriétaires.
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison parce que, par exemple, moi, quand j'étais en exercice, où je me suis beaucoup occupée des questions d'indivision et de patrimoine, souvent, quand je demandais aux gens est-ce que vous avez un titre de propriété, ils me répondaient oui. Est-ce que vous pouvez me donner? En fait, ils me sortaient une fiche cadastrale. Parce qu'ils ont, il y a le plan cadastral et la matrice cadastrale. Et la matrice cadastrale donne le nom de quelqu'un. Et ils considèrent que c'est la preuve de la propriété. Pas du tout. Le cadastre, c'est une indication de celui qui occupe. Ou bien, souvent, les gens sont venus avec un plan de géomètre. Parce qu'il y a eu, surtout il y a de cela 60, 80, même 100 ans, les géomètres venaient et ils délimitaient une parcelle, ils mettaient des bornes et on faisait la limite et les gens pensaient que c'était suffisant. Ils n'allaient pas chez un notaire pour pouvoir formaliser. Ce que moi j'aimerais que vos auditeurs et auditrices retiennent, c'est que la preuve de la propriété, c'est l'inscription au fichier foncier. Si vous n'êtes pas à la publicité foncière, vous n'avez pas la preuve d'être propriétaire. Si vous n'avez pas un document qui a été publié à la publicité foncière, en droit français, vous n'êtes pas propriétaire parce que vous n'avez pas la preuve de votre propriété. Donc c'est important, la publication de documents, même si vous avez un document. Moi j'entends souvent des gens qui disent « Ah oui, j'ai trouvé dans les papiers de mon grand-père, de ma grand-mère, un vieux papier. » Oui, mais est-ce qu'il a été publié? Parce que s'il n'a pas été publié, c'est problématique. Je ne dis pas qu'on ne peut pas peut-être régulariser les choses. Mais c'est problématique si ça n'a pas été publié. Donc c'est absolument indispensable. Et ensuite, il faut, une fois qu'on arrive, même si on arrive à retrouver le titre qu'il est publié, mais il faut retrouver les héritiers. S'il y a quelqu'un qui était propriétaire à un moment donné, mais il est mort, il a laissé combien d'enfants? Et puis les enfants sont morts, ils ont laissé combien d'enfants? Et vous ne pouvez pas vous imaginer, les Martiniquais, ils bougent beaucoup. Hein, ils sont en France hexagonale, ils sont en Asie, ils sont en Nouvelle-Calédonie. Il faut les retrouver pour pouvoir faire les papiers. Ça s'appelle une notoriété. C'est la liste des héritiers.
Quand on parle de liste des héritiers, il y a une nouvelle donne qui a été installée depuis la loi Letchimy du 27 décembre 2018, hein, qui fait qu'il faut 50% plus une part pour pouvoir procéder à... Du moins, il faut que la succession soit ouverte depuis... Du moins, que le décès soit prononcé depuis plus de 10 ans pour pouvoir procéder à la...
Oui, alors là, vous parlez d'une deuxième phase. Parce que ce dont je viens vous parler, c'est-à-dire l'établissement de la liste des héritiers et l'établissement de la propriété... C'est pour établir qui est propriétaire de quoi. Donc, c'est déjà compliqué. Et ça, le GIP, c'est à ça qu'il sert, à aider les gens à établir cela. Une fois, imaginons, vous avez vu un généalogiste qui a retrouvé tous les héritiers, il y a tous les documents, le notaire a pu faire la liste des héritiers et la liste des biens. Maintenant, il faut sortir de l'indivision. Et on sort de l'indivision comment? Soit parce qu'on décide de partager, soit parce qu'on décide de vendre. Et c'est l'apport de la loi Letchimy, parce qu'auparavant, selon la loi, il faut l'unanimité pour vendre ou pour partager. Et quelquefois, il y avait un héritier qui bloquait pour X raisons. Quelquefois, il n'était pas là, il était absent, on ne savait pas. Quelquefois, il ne répondait pas. Il était ce qu'on appelle taisant. Et puis, des fois, il s'opposait, c'est-à-dire non, je ne veux pas. Et alors, il faut quand même essayer de comprendre pourquoi il ne veut pas. Parce que quelquefois, c'est des histoires de famille qui sont à l'origine du refus, d'où la nécessité de recourir à des médiations pour pouvoir essayer de démêler ce qu'il y a derrière le refus de quelqu'un. Enfin, toujours est-il que la loi Letchimy a apporté un avantage extraordinaire puisque la minorité ne pouvait pas bloquer la majorité. Et donc, que ce soit pour partager ou pour vendre, maintenant, avec la loi Letchimy, on peut avoir la majorité des droits.
Mais il faut que la succession soit ouverte depuis plus de 10 ans.
Alors, au départ, le projet de loi du député Letchimy, c'était 5 ans. Mais le Sénat a proposé, a voulu 10 ans. Et pour que la loi passe plus vite, pour qu'elle ne reparte pas à l'Assemblée nationale pour un débat, le député a accepté que ce soit 10 ans.
On voit beaucoup de personnes en ce moment aussi parler, dans l'actualité aussi, de prescription acquisitive et que cela crée des tensions des fois dans certains domaines. On sait qu'il y a une réforme qui est en cours et qui a été faite il n'y a pas longtemps. Et ça va permettre, on voit qu'il y a des divergences à ce niveau.
Oui, tout à fait. Alors deux choses déjà. La prescription en droit français, c'est une donnée qui existe depuis la création du Code civil. C'est une donnée très ancienne. La notion de prescription, que ce soit en matière civile, en matière fiscale, en matière pénale, c'est une notion fondamentale du droit. Ça vient aussi du droit romain. Ce sont, chez les juristes, ce qu'on appelle la doctrine, c'est une notion qui est importante. C'est-à-dire que le temps fait son œuvre, soit pour vous faire perdre un droit, soit pour vous faire acquérir un droit. Et c'est ce qu'on appelle la prescription. Ça a un avantage quand on a, pendant plus de 5 ans, les impôts ne vous ont rien réclamé. Après, ils ne peuvent plus vous réclamer. Donc, vous avez commis une infraction. Au bout de 3 ans, on ne vous a rien dit. On ne peut plus vous rechercher. Pour un crime, c'est 10 ans. Donc, dans toute matière, la notion de temps est importante. Et la prescription, c'est ça. Et en matière immobilière, en matière foncière, comme c'est notre cas, la loi dit que quand on a occupé pendant 30 ans, en se comportant comme un propriétaire, c'est-à-dire en faisant des actes d'occupation qui sont au vu et au su de tout le monde et qu'on ne vous a rien dit, vous pouvez alors dire que vous êtes propriétaire en allant chez un notaire pour faire établir une notoriété prescriptive. Donc c'était 30 ans. L'occupation, c'est 30 ans. Il y a une réforme qui est intervenue en 2017, qui est un décret, qui a dit que pour attaquer une notoriété, c'était 30 ans. Et là, on a réduit le délai en disant que c'est 5 ans. Donc, je reprends, il faut 30 ans pour pouvoir devenir propriétaire par l'occupation. Et pour l'outre-mer, depuis 2018, il suffit de 5 ans pour rendre définitif, pour ne plus pouvoir attaquer. Le 9 avril, il y a une disposition, c'est-à-dire dans une loi, on a glissé un certain nombre de dispositions, dont une disposition qui a réduit la durée d'occupation à 10 ans. Moi, je considère que c'est une erreur absolue. On peut réduire la durée de l'occupation quand on a une situation stable. Or, nous sommes en Martinique dans une situation de désordre foncier. On ne peut pas appliquer on ne peut pas diminuer le temps alors qu'on est dans une situation de désordre. Il n'y a aucune logique, aucun bon sens. Et personnellement, moi, je trouve que c'est une erreur totale.
Ils ont diminué et par rapport à la période de recours.
Alors, ça n'a pas changé, puisque la loi d'avril n'a pas changé. Donc, c'est la loi précédente qui s'applique, qui est le fameux décret de 2018. C'est 5 ans. Donc, à l'heure actuelle, on peut considérer qu'au bout de 15 ans, quelqu'un peut devenir propriétaire. Bon, quand on sait comment les choses se passent, c'est-à-dire que vous avez réellement ce qu'on appelle une diaspora à la Martinique. Vous avez des gens qui sont... Il ne faut pas oublier que le Bumidome est passé par là, qu'il y a gens qui sont partis, qui sont allés... Ils n'ont pas voulu partir. Ils étaient forcés à partir pour trouver du travail. Ils ont fait souche en France. Ils ont trouvé du travail. Ils ont fait des enfants. Et donc, maintenant, ce n'est pas pour autant que, on peut dire balayer d'un trait de plume. Alors, je dis, comme je le dis aussi toujours, c'est pas parce qu'on vous a dit que vous êtes propriétaire, vous pouvez vous dire, vous dormez sur vos deux oreilles et que vous n'avez rien à faire. Il faut vous préoccuper de savoir, il faut aller sur le bien, voir si quelqu'un, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un pendant 30 ans sur un bien sans rien dire. Si quelqu'un vient s'installer, il faut lui faire soit un recommandé, soit envoyer un huissier, il faut faire quelque chose. Donc, ce que les gens doivent retenir, c'est que, un, il faut s'occuper de leurs affaires. C'est-à-dire que vraiment, recherchez si vous avez un titre de propriété. Si vous ne l'avez pas, venez au GIP, on va vous aider à rechercher les papiers et à vous dire comment il faut faire. Ensuite, dites à vos enfants comment ça se passe, et puis allez sur votre terrain régulièrement, clôturez-le, cultivez-le. Il faut que les personnes qui sont propriétaires s'occupent de leurs biens.
On se retrouve aussi avec des familles qui tentent de sortir de l'indivision et qui sont bloquées des fois, parfois, dans leur démarche par l'apport financier qu'ils doivent faire à un propriétaire. Certains, vous avez parlé, on a parlé de généalogistes, on a parlé même du notaire, des avocats, du géomètre, ce qui fait que... qu'ils ont du mal à avancer dans leur procédure.
Tout à fait, c'est un vrai problème, hein. c'est pas comme ça une vue en l'air. Hein. Alors il y a déjà des mécanismes qui sont mis en place, hein, notamment par la CAF, par les communautés d'agglomération, notamment l'Espace Sud, normalement Cap Nord et la CACEM vont suivre, et donc c'est géré par la DIL. Les personnes qui ont, il y a une condition, il y a deux conditions, il faut que les personnes aient un projet de logement sur le terrain et la construction qui sont en indivision, il faut que les personnes ne dépassent pas un certain seuil de revenus, qui en général sont les minima sociaux. En ce qui concerne le GIP, nous avons pris en compte cette situation en décidant que pour les personnes qui n'avaient pas de projet de logement, c'est-à-dire qui étaient simplement dans l'indivision, et qui avaient des revenus équivalents au SMIC brut, donc c'est une somme supérieure, le GIP pouvait leur allouer une aide de 3 000 euros par indivisaire. Donc, si dans une indivision, vous avez plusieurs indivisaires qui gagnent moins de 1 400 euros, ils peuvent percevoir cette aide du GIP.
D'accord. On se retrouve des fois avec...
Je voudrais juste préciser que l'aide est versée aux professionnels directement. Pas
aux familles, aux professionnels directement. Mais c'est vrai que c'est une très bonne chose, en tout cas, ce qui va permettre d'avancer beaucoup de dossiers, que les gens puissent, en tout cas... procéder au règlement de leur indivision, espérons, parce que quand on voit la situation actuelle, on se retrouve avec beaucoup de personnes qu'on entend dire hein, dans la rue un peu partout, même si on a déjà un petit peu répondu en disant « Mon papa m'a donné un papier qui dit que ce morceau de terrain-là, c'est à moi, que je peux construire ma maison. » Être là, ils considèrent qu'ils sont propriétaires.
Non, ils ne sont pas propriétaires. Alors, c'est vrai que y a un notaire qui s'appelait Maître Plissonneau qui appelait ça les maisons folles, parce que, justement, elles ne sont pas la propriété, même si celui qui est propriétaire vous a donné l'autorisation. Mais s'il n'y a pas eu un document, c'est-à-dire s'il ne vous a pas fait une délimitation et une donation, ou bien si vous n'avez pas acheté, vous n'êtes pas propriétaire. Ce qui fait que vous vous retrouvez à avoir construit sur le terrain qui, lui, est d'un indivis. La loi dit que tout ce qui est celui qui est propriétaire du dessous, c'est-à-dire le terrain, est propriétaire du dessus. C'est-à-dire, si c'est l'indivision qui est propriétaire du terrain, l'indivision est propriétaire de tout ce qui est sur le terrain. Alors, celui qui a construit, comme c'est son argent qui a construit, il pourra faire jouer un certain nombre de mécanismes au moment du partage. Par exemple, il pourra demander ce qu'on appelle l'attribution préférentielle, parce qu'il occupe une partie. Il pourra, si jamais ce n'est pas possible... Il pourra demander à l'indivision, à condition de prouver qu'il a reçu l'autorisation, il pourra demander une indemnisation pour la maison. Mais en aucun cas, s'il n'y a pas de papier notarié et publié, la personne ne peut se dire propriétaire.
On se retrouve aussi avec beaucoup de questions qui disent qu'on a un frère ou une sœur, peu importe, hein, ou un neveu, quelqu'un qui occupe une maison, qui a une indivision, doit-il payer un loyer ou non ?
Absolument, c'est le principe. On ne peut pas... puisque la maison appartient à tout le monde. Hein, donc, si vous l'occupez privativement, c'est-à-dire c'est vous tout seul, c'est votre domicile d'ailleurs, hein, c'est même si vous l'occupez sans payer de loyer, mais c'est votre domicile, ça veut dire qu'on ne peut pas venir vous déloger comme ça sans décision de justice, vous devez une contrepartie qui est, ça s'appelle une indemnité d'occupation.
Effectivement, où cela est décalqué sur le fait s'il y a une vente ou une séparation.
Tout à fait, oui. Alors, la précision, c'est que l'indemnité d'occupation... ça se prescrit par 5 ans. Il ne faut pas que les personnes, les autres indivisaires, il ne faut pas qu'ils se disent la personne est là et puis je vais, ça monte et puis je dis, et puis ça va, au bout d'un moment, on va calculer. S'il n'y a pas, on n'a pas demandé, c'est 5 ans. On ne peut pas remonter à plus de 5 ans.
D'accord, donc on peut remonter, mais seulement au bout de.
Oui, alors sauf si vous avez régulièrement fait ce qu'on appelle une sommation manifestée que vous entendez réclamer toujours pour prolonger les 5 ans. Mais si vous n'avez rien dit et si vous n'avez rien fait, c'est 5 ans. Le jour où on va arriver à la vente ou au partage, vous ne pouvez pas remonter à plus de 5 ans.
On prend une hypothèse quelconque. On l'a dit, beaucoup de Martiniquais sont partis dans l'Hexagone pour différentes raisons. Ils avaient acheté un terrain, ils avaient un terrain, ils retournent, ils trouvent une maison sur leur terrain. Mmh. Cette maison appartient à qui ?
Mais si le c'est toujours la question du foncier, il faut voir au niveau des...
S'ils sont propriétaires du terrain, par exemple.
Hein. Ah ben oui, ils sont propriétaires de la maison. Hein. S'il n'y a pas eu de notoriété prescriptive pour pouvoir contrecarrer leur titre, ils sont propriétaires de la maison, donc il faut qu'ils fassent une procédure pour demander à la personne de démolir et de partir. S'il n'y a pas de raison que la personne qui est venue occuper le terrain... ils ne sont pas obligés de garder la maison s'ils ne veulent pas.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils peuvent garder la maison ? Est-ce qu'ils peuvent...
Alors, s'ils veulent garder la maison, il faut qu'ils indemnisent.
Il faut qu'ils indemnisent, même si la personne a construit sur leur terrain.
Absolument. Absolument, puisque le terrain s'est enrichi de la construction. Ils ne peuvent pas à la fois demander à la personne, même si la personne est venue construire sur leur terrain, ils ne peuvent pas demander à la personne de partir et de laisser la construction. Ils demandent à la personne de partir et de démolir. Mais si jamais la construction les intéresse, ils peuvent indemniser de la valeur de la construction. Il y a un calcul, hein, le code est très précis sur la façon de calculer. D'accord. Mais ils peuvent pas dire à la personne de partir et garder la maison, c'est pas possible.
C'est vrai que beaucoup de on entend dire un peu de tout et c'est vrai que beaucoup de personnes se posent des questions.
Ah non, c'est pas parce qu'on a construit sur votre terrain illégalement que vous devez garder la maison. c'est pas vous qui l'avez construite, c'est pas votre argent qui l'a construite.
Voilà, c'est vrai que c'est vraiment pas simple. Le GIP, compte-t-il mettre en place ? C'est vrai qu'on a dit qu'il y a un accueil physique qui se fait à Delgrès, qui le monte en pression au fur et à mesure, puisqu'elle est en train d'être installée. Y aura-t-il des réunions, par exemple, itinérantes dans certaines communes auprès de la population ? Parce qu'on sait que des fois, les gens ont du mal à se déplacer, notamment dans le Nord. Hein, on se retrouve avec une population vieillissante.
Oui, tout à fait. Nous étions d'ailleurs, il y a 15 jours, au Lorrain, et la prochaine commune, c'est le Robert. Donc oui, selon la demande. Alors il faut qu'il y ait une demande de la commune, ou bien c'est quelquefois il y a ce qu'on appelle le CDAD, qui est un organisme qui dépend du tribunal judiciaire, qui a l'occasion d'organiser. Donc c'est des réunions qui se tiennent pas seulement avec le GIP, avec les notaires, avec les géomètres, avec les personnes qui sont liées à tout ce qui concerne le foncier et la construction. Donc c'est très volontiers que le GIP va se déplacer.
Vous êtes présidente du GIP Titre Main Indivision. On sait qu'on l'a rappelé, hein, dans certaines communes, 70-80% d'indivision. Pensez-vous que dans les prochaines années, on va réussir vraiment à améliorer ces chiffres et à faire les choses avancer à ce niveau ?
Oui, moi
Combien de temps vous pensez qu'il faudra pour régulariser, faire qu'il y ait moins de tensions à ce niveau-là ?
Moi, je suis convaincue parce que depuis que, comme je vous l'ai dit, moi, c'est une question sur laquelle je travaille depuis longtemps. Et là, je constate une vraie volonté des gens d'en vouloir en sortir. Cette détermination, et notamment chez les personnes âgées, dit « je ne veux pas laisser ça à mes enfants ». Alors que c'était l'inverse un petit peu qu'on entendait avant. Donc, non, moi, pas qu'à faire. Hein. Bon, c'est du moment, il a qui voit ça. On entend exactement le contraire maintenant. Donc, il y a cette vraie volonté. Et donc, le GIP pourra vraiment aider. Alors, la difficulté, c'est que la subvention qui est accordée au GIP ne sera pas suffisante pour faire face aux demandes. Quand on fait l'inventaire, mais je ne désespère pas que l'État et la collectivité, puisqu'ils devront, pour l'année prochaine, il y aura une nouvelle période qui va s'ouvrir, il doit y avoir un contrat de convergence, et l'État et la collectivité vont refinancer, vont fixer les montants. Donc j'espère qu'ils vont augmenter ces montants, pour nous permettre d'aider les personnes à pouvoir sortir de l'indivision, parce que le budget qu'on a n'est vraiment pas suffisant pour pouvoir effectivement donner ces aides. Et à l'heure actuelle, le GIP, c'est une petite équipe. Hein. Il y a une directrice, une juriste, une aide comptable, quelqu'un à l'accueil, un chargé d'études foncières. Nous allons embaucher une deuxième juriste à partir du mois de juin. C'est une petite équipe, mais qui est très compétente, très dynamique, très efficace. Moi, je suis persuadée qu'on pourra vraiment aider les personnes parce que nous avons accès, si vous voulez, à la publicité foncière pour pouvoir faire les recherches pour les personnes. Nous avons accès au cadastre, nous avons accès à l'état civil. Donc, nous pourrons faciliter déjà énormément de démarches pour les gens qui n'auront pas à se déplacer, surtout pour les personnes âgées qui devaient aller aux archives quelquefois à Tartanson, à Cluny, qui devaient aller dans la mairie. C'était pour eux, oui, pour les personnes qui n'ont pas de véhicule, c'était compliqué. Alors que là, ils vont venir au GIP et au moins le GIP pourra faire toutes ces démarches pour au moins que les personnes sachent quelles sont les pièces qu'elles devront fournir parce qu'on aura pris les actes d'état civil et tout et les renseignements à la publicité foncière. Donc le GIP va aider énormément les gens à déjà savoir où ils en sont.
On entend dire beaucoup qu'on devrait, dans notre culture, anticiper le partage et anticiper la division, par exemple. Et c'est ce qui permettrait de régler un peu.
Oui, tout à fait. C'est vrai. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation que nous avons, c'est une situation qui nous vient de l'histoire. À l'heure actuelle, toutes les personnes qui, depuis, 20, 30, 10 ans, ont acheté elles-mêmes leur titre, donc elles ont leur titre. Il n'y a pas de problème de titre de propriété, oui, puisqu'elles ont acheté. Donc, ces personnes ont des enfants, qui soient d'un premier lit, d'un deuxième lit, légitimes, naturels, mais tous les enfants ont les mêmes droits. Donc, il vaut mieux. Effectivement, il vaut mieux. Alors, anticiper, ça veut dire que le partage, ce n'est pas toujours évident, parce que si vous avez plusieurs enfants, vous n'avez pas forcément un patrimoine que vous pouvez partager, parce que vous n'avez pas un patrimoine suffisant. Mais au moins, vous pouvez mettre les choses en ordre, quelquefois faire une assurance vie au profit de chaque enfant pour payer les droits de succession, pour donner une idée de ce que vous auriez préféré pour le partage. Ça, c'est possible. Et je conseille aux gens de ne pas oublier que quand ils ont un certain âge, il ne faut pas se défaire de tous leurs biens en disant « bon, je règle ma succession, je donne tout à mes enfants ». Vous ne savez pas comment vous serez dans 10 ans, combien de temps vous allez vivre. Quelquefois, il faut rester propriétaire d'au moins un bien pour pouvoir le vendre si vous avez besoin, parce que vous êtes en perte d'autonomie. Vous avez besoin de quelqu'un pour être avec vous la journée, le soir, ça coûte très cher. Donc, si vous avez tout donné à vos enfants, vous n'avez plus rien. Donc, il faut faire attention. Donc, il vaut mieux se faire assister pour, et c'est pas le GIP, ça c'est oui, soit un notaire, soit un avocat, pour savoir quelle est la meilleure solution. Mais oui, il vaut mieux toujours essayer de prévenir et d'organiser si possible les choses.
C'est vrai qu'on entendait dire souvent de beaucoup de personnes qu'il faut créer des SCI, etc., des choses comme ça qui permettraient peut-être de...
La SCI, c'est un outil, ce n'est pas une panacée, parce que il faut s'entendre, c'est pas parce qu'on est une société. Il faut que les membres de la société, les associés, ils s'entendent. Parce qu'autrement, ça va à la catastrophe. La société va... Et on peut avoir comme ça un héritage qui explose parce qu'on ne s'est pas mis d'accord. L'entente, c'est l'essentiel. Donc si on n'est pas sûr d'être d'accord, la SCI, ce n'est pas l'outil qu'il faut. La SCI peut être un moyen, effectivement, mais il faut vraiment étudier au cas par cas.
C'est vrai que beaucoup de personnes ne pensent pas que l'entente, même dans la SCI, ils ne se disent pas qu'il faut qu'il y ait une entente aussi. C'est vrai qu'ils se disent
c'est indispensable.
Que ce soit l'outil qu'on met en place, il faut qu'il y ait une entente.
Il faut absolument une entente, parce qu'une société, quand les associés ne sont pas d'accord, à ce moment-là, n'importe lequel des associés peut demander au tribunal de désigner ce qu'on appelle un mandataire, qui va gérer à la place du gérant qu'on s'était choisi. Et puis, s'il y a un problème financier, on dépose le bilan, et puis la liquidation arrive très vite. Donc... à manier avec précaution. C'est un outil, c'est utile, mais ça n'est pas, faut pas se dire que on va y aller, c'est la solution pour tout. C'est pas vrai.
En tout cas, merci d'avoir pu aiguiller un peu nos auditeurs sur. C'est une question qui est très complexe parce que chaque cas est particulier. Et ce que vous leur conseillerez, s'ils ont des questions à poser, c'est soit pour certains se rendre auprès du GIP ou de certains professionnels qui vont répondre à leurs questions.
Oui, mais ils peuvent téléphoner. Je vais juste rappeler le numéro de téléphone 0596. 49 03 30. Et en fonction de la question, la personne va vous dire oui, ça relève du GIP, non, et ou même conseiller de quelle démarche il faut faire.
En tout cas, merci. Beaucoup de personnes, en tout cas nos auditeurs ne le savent pas, certains le savent, Mais vous avez été aussi présidente du CERMAC, du Centre culturel, maintenant qui s'appelle à Fort-de-France, en tout cas du CERMAC, qui a été créé par Aimé Césaire. Cette semaine, c'était l'anniversaire de sa mort. Rappelons qu'il est décédé malheureusement le 17 avril 2008. Oui. Cela fait déjà 16 ans que le chantre de la négritude nous a laissé. On sait que vous étiez, que c'est quelqu'un que vous admirez aussi.
Absolument, oui. J'ai été adjointe au maire et présidente du CERMAC de 2008 à 2014. C'est-à-dire que j'ai été élue adjointe en mars 2008 et en avril, c'est-à-dire moins de mois après, Aimé Césaire décédait. Moi, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et donc, il a fallu vivre ça tout de suite. Oui, Aimé Césaire, je veux dire, moi, j'ai suivi tous les festivals depuis la création du festival. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'avant, à la Martinique, il n'y avait pas tout ce foisonnement culturel qui existe maintenant. Aimé Césaire a créé cet élément où tous les Martiniquais pouvaient gratuitement accéder, parce que même maintenant c'est payant, mais c'est vraiment dérisoire par rapport aux autres structures, avec des enseignants et qui pouvaient permettre aux Martiniquais de s'approprier leur propre culture sans se fermer au monde. Donc on avait les deux possibilités avec des animateurs, des professeurs, et ça a été un apport extraordinaire. Ça, l'imaginaire des gens, quand vous lisez tout, vous voyez que ce soit des arts, quel que soit l'artiste, à un moment donné, ils sont passés par le CERMAC. Donc oui, c'est quelqu'un d'absolument essentiel pour la Martinique.
En tout cas, merci. Bon, je rappelle aux auditeurs qui nous envoient des messages que je vais mettre sur Internet et sur le site l'adresse du GIP et le numéro de téléphone. Je vais me remettre l'adresse et le GIP, donc ne vous inquiétez pas. J'ai des questions directes qui demandent l'adresse et le GIP. L'adresse du GIP, je vais le mettre sur le site, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Vous aurez qu'à aller sur le site. Je voudrais qu'on parle un petit peu, juste avant de conclure cette émission, de l'actualité un peu internationale. Beaucoup de personnes sont inquiètes de la situation d'Haïti, notamment. Il n'y a plus de gouvernement, même s'ils ont semblé aller vers un gouvernement provisoire en attendant de pouvoir remettre en place les élections. C'est très inquiétant de voir ce qui se passe dans la Caraïbe, et Haïti n'est pas si loin de ça de nous.
Ah, mais tout à fait, c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez un pays où l'état de droit n'existe pas, n'existe plus. Déjà, bon, qu'il a existé avec beaucoup de complications. Alors, il y a des raisons. Il ne faut pas non plus qu'on s'imagine, parce que j'entends souvent dire que comme si les Haïtiens sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Haïti, c'est quand même un grand pays. C'est un pays qui souffre. C'est un pays du fait de la carence et puis de la gabegie de certains nombres de dirigeants qui se sont plus intéressés à leur intérêt personnel qu'à l'intérêt collectif. Et puis, les puissances internationales aussi, il ne faut pas oublier non plus. Les armes qui circulent en Haïti, ils viennent des États-Unis. Les États-Unis qui donnent des leçons à tout le monde, mais ils ne sont pas capables de contrôler ce qui sort de leur pays et qui vient inonder, que ce soit Haïti ou la Caraïbe d'ailleurs. Et nous aussi, quand les gendarmes ici, quand ils font quand ils saisissent des armes, la plupart des armes viennent des États-Unis. Donc Haïti, c'est vrai, Haïti pâtit de tout cela. Il faut espérer que ce qui est proposé à l'heure actuelle va pouvoir permettre à l'état de droit de reprendre un peu la main.
En tout cas, merci Maître d'avoir pris le temps de venir nous expliquer que c'est le GIP Titrement Indivision. Si vous avez des questions, vous pourrez appeler au numéro de téléphone du GIP que je mettrai en ligne sur la page Facebook et aussi l'adresse. En tout cas, merci encore. Je remercie l'équipe de Radio Sud-Est. Je remercie Dominique et Carole. Je souhaite à tous nos auditeurs un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore.
Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
Le son des Antilles.